16h, le journal de la mi-journée sur Europe 1, c'est avec François Geffrier aujourd'hui. Bonjour François.
Bonjour Marlène et bonjour à tous. Dimanche 10 février 2019, il est midi et demi, soyez les bienvenus. Une demi-heure d'infos qui commence avec cette grosse tache orange sur la carte de France. La vigilance au vent violent, c'est tout le quart nord-est qui est concerné. Des Ardennes jusqu'à la Savoie, de la Nièvre à l'Alsace. Soyez prudents, nous sommes avec Valérie Darmon dans un instant. L'actualité de ce dimanche est marquée par ce nouvel incendie, cette fois à Lyon, hier soir après une explosion dans une boulangerie. Il y a deux morts. On entendra Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, qui s'alarme des conséquences du mouvement des Gilets jaunes sur l'emploi. 65 000 personnes risqueraient le chômage technique selon elle. Nissan accusé de dérapage. Les avocats de Renault entrent en scène dans l'affaire Carlos Ghosn et dénoncent les pratiques d'enquête du Japonais, qui est toujours censé être son allié. La mairie de Paris ne lâche pas Airbnb. Le site de location de logements à la nuit risque 12,5 millions d'euros d'amende pour des petites annonces qui ne respecteraient pas la loi. Explication à suivre. Et puis une riche actualité sportive. Aujourd'hui, deux Angleterre-France cet après-midi en rugby. Les femmes à 13h45, puis les hommes à 16h. Le tennis avec la Fed Cup. L'équipe de France mène 2-0. Et puis on vous donnera des nouvelles de Cavani, nouveau blessé parmi les stars du PSG. Journal des sports dans un petit quart d'heure. Sans oublier l'invité d'Europe 1, Fabrice Rieux. C'est le patron du salon Wine Paris. Si vous préparez votre déjeuner du dimanche, on va parler de vin tout à l'heure, avec modération bien sûr, c'est à 1h10.
Europe 1.
Ça vous a peut-être réveillé cette nuit, ce bruit à travers les tuiles et les cheminées. Le vent a décidé de venir nous embêter pour nos sorties du dimanche. Bonjour Valérie Darmon.
Bonjour François, bonjour à tous.
Météo France a pris ses précautions puisque 21 départements du Nord-Est sont en vigilance orange.
Exactement, pour vent violent, donc des Ardennes à la Savoie, jusqu'à Lyon et à la Nièvre. Ça cause donc d'Isaïa, une dépression qui circule en Manche depuis ce matin, donc qui génère de puissantes rafales de vent et de la pluie, surtout sur l'ouest de la Bourgogne à l'heure qu'il est, et de la Champagne Ardennes, avec des pointes aux alentours de 70 km/h. Mais jusqu'en soirée, les rafales vont se renforcer continuellement pour atteindre 100 à 110 km/h, 120 en moyenne montagne, notamment dans les stations de sport d'hiver. Et parallèlement, le vent soufflera aussi dans les heures à venir du Poitou au Jura, avec des rafales comprises entre 80 et 100 km/h. Dans le même temps, les chutes de neige vont s'intensifier sur les Vosges, le Jura, le nord des Alpes, avec une limite pluie-neige qui va descendre à 500 mètres. Et c'est sur les Alpes du Nord que la situation va devenir la plus délicate, avec un véritable blizzard qui va s'abattre en haute altitude, donc à surveiller particulièrement ce quart nord-est.
On surveille donc cette tempête qui se prénomme Isaïas. Merci beaucoup Valérie Darmon, on vous retrouve dans un quart d'heure pour la météo complète.
Europe 1, 12h32.
Décidément, l'actualité de ce début d'année 2019 est marquée par les incendies et celui qui s'est produit hier soir à Lyon nous en rappelle un autre. Une explosion dans une boulangerie a provoqué un départ de feu dans le 8e arrondissement de la ville, exactement comme à Paris il y a un mois rue de Trévise. Hier soir, dans ce nouveau drame, deux personnes ont perdu la vie, une femme enceinte et son enfant. Rémi Pierre, vous êtes pour Europe 1 à Lyon et vous avez pu rencontrer des riverains.
Oui, effectivement, des riverains, vous vous en doutez, très choqués par le drame survenu hier soir qui a frappé une famille qui habitait juste au-dessus de la boulangerie. Plusieurs personnes sont venues déposer des fleurs sur une barrière à quelques mètres de la maison calcinée. Michel, très ému, connaissait la famille.
C'est une petite fille, la maman était enceinte, le papa, c'est pas normal, c'est horrible ce qui se passe, c'est horrible. Il n'y a pas de mots, quoi. Il n'y a pas de mots, franchement, je ne sais pas quoi penser. Je suis complètement abasourdi, là, c'est atroce.
Alors, très émue aussi, Elisa habite en face de la maison. Elle a assisté impuissante au drame qui s'est joué hier soir. Elle a d'abord entendu une forte explosion avant de se précipiter à sa fenêtre.
On a vu la boulangerie avec des flammes. J'entendais les gens dans la rue qui criaient « ça sent le gaz, éloignez-vous, ça va encore exploser », tout ça. Et j'ai vu un homme à la fenêtre du premier étage, juste au-dessus de la boulangerie, qui a sauté. Mon compagnon a apporté un duvet à l'homme qui a sauté. Ils ont essayé de lui demander s'il y avait quelqu'un à l'intérieur, mais il répondait pas. Je pense qu'il était trop choqué pour répondre.
Car l'homme en question était le compagnon de la femme décédée, donc le père également de la fillette. Et puis on vient de l'apprendre à l'instant du parquet de Lyon, après les premières investigations menées sur place. Eh bien, c'est désormais la piste criminelle qui est clairement privilégiée.
Piste criminelle, nous indique Rémi Pierre en direct de Lyon pour Europe 1 sur cet incendie qui a donc fait deux morts hier soir. Le chômage technique menacerait 65 000 personnes en France et c'est la ministre du Travail qui le dit pour Muriel Pénicaud. C'est la conséquence des perturbations causées par le mouvement des Gilets jaunes sur l'économie. Elle a donné ce chiffre ce matin au grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos.
C'est clair que les deux derniers mois de l'année sont mauvais en termes d'emploi parce qu'il y a plein d'emplois qui n'ont pas été créés, qui devaient être créés. notamment dans les commerces, dans l'artisanat, dans la petite industrie. On a 65 000 personnes menacées de chômage technique. Les effets se voient au fur et à mesure. Il y a eu tous les emplois qui ont pas été créés.
En lien direct avec les manifestations
du
samedi.
La confiance des entreprises pour embaucher. Et puis quand vous avez les commerces fermés, les centres-villes fermés, ou la menace que ça soit fermé, vous croyez que ça donne confiance pour embaucher ? On ne peut pas embaucher si son magasin va être fermé. Hein. Il faut accepter que toutes les choses ont des conséquences. Manifester, c'est un droit formidable. Mais attaquer et bloquer, et ceci samedi après samedi, oui, c'est aussi contre l'emploi.
Muriel Pénicaud, invitée du grand rendez-vous Europe 1, CNews Les Échos ce matin. 3 Français sur 4 sont favorables à l'organisation d'un référendum dans les prochains mois. Résultat d'un sondage paru ce matin dans le journal du dimanche. Ce même journal qui évoquait la semaine dernière la possibilité d'un vote sur plusieurs questions, notamment institutionnelles. Possibilité réfléchie par Emmanuel Macron pour le jour des élections européennes le 26 mai. On dirait 2 alliés qui se font la guerre. Renault et Nissan voient leur relation brouillée depuis près de 3 mois que Carlos Ghosn est en prison au Japon. Nouvel épisode de cette querelle froide. Les avocats du constructeur français dénoncent des dérapages de la part de Nissan. Bonjour Olivier Samin.
Bonjour.
Du service économie d'Europe 1. Nissan serait allé un peu loin dans son enquête interne.
Oui, c'est ce que révèle un échange de mails assez incroyable entre un cadre de Nissan, Hideaki Kubo, qui travaille à Tokyo sous la responsabilité du directeur général de la marque japonaise, et un salarié de Renault, que Nissan veut interroger pour appuyer les charges contre Carlos Ghosn. Cet échange de mails est publié ce matin dans le journal du dimanche. Et on découvre en le lisant que le constructeur japonais non seulement s'affranchit des règles judiciaires établies entre le Japon et la France, mais en plus met une très grosse pression sur le salarié français pour le convaincre de venir à Tokyo. Plusieurs mails entre le 14 décembre et le 3 janvier, dans lesquels l'interlocuteur japonais affirme agir en coordination avec le bureau du procureur. Votre nom est apparu dans le dossier, dit l'un des mails. Il conviendrait que vous fassiez le déplacement à Tokyo. Bien sûr, nous prendrons en charge le voyage et l'hôtel. Réponse du salarié de Renault. Je suis surpris que cette demande vienne de Nissan et non directement du procureur. Si je suis convoqué via les voies légales, je viendrai, mais pas autrement. Plusieurs mails s'enchaînent et l'interlocuteur japonais finit par admettre qu'indépendamment de l'enquête criminelle menée par le procureur, nous, Nissan, devons mener notre propre enquête. C'est une question urgente pour nous. Sachez que d'autres employés et anciens cadres de Renault ont accepté ou sont en voie de le faire. Les 2 seules personnes qui n'acceptent pas sont un autre employé de Renault et vous-même.
Merci Olivier Samin. Dans un instant, à Paris, à 12,5 millions d'euros, le site Airbnb est assigné devant la justice par Anne Hidalgo. Elle demande que la loi soit respectée par le géant américain de la location de logements. À tout de suite.
Il est 12h37, vous écoutez François Geffrier jusqu'à 13h sur Europe 1. 38, la suite du journal, François Geffrier.
Personne ne connaissait cette marque il y a 10 ans et c'est aujourd'hui le poil à gratter de toutes les grandes villes touristiques. Le site Airbnb agace les élus tout en profitant aux propriétaires de logements. Encore faut-il respecter la loi. Bonjour Marguerite Lefebvre.
Bonjour François.
La maire de Paris, Anne Hidalgo, attaque Airbnb et agite la menace d'une très grosse amende.
Oui, cela fait plusieurs semaines que des agents de la ville de Paris contrôlent tous les jours les annonces publiées sur le site de location. Ils se concentrent essentiellement sur les appartements les plus demandés dans le centre de Paris et déjà, ils ont pu constater des annonces considérées comme litigieuses qui ne respectent pas les règles de la loi Elan. C'est-à-dire que le logement est un numéro d'enregistrement auprès de la ville et puis qu'il ne soit pas loué plus de 120 jours par an. 1000 annonces litigieuses donc pour lesquelles la mairie de Paris réclame aujourd'hui une amende record, 12,5 millions d'euros. Et Yann Brossat est l'adjoint chargé du logement à la mairie de Paris.
Ça n'est pas parce qu'il s'agit d'une multinationale américaine qu'elle a le droit de s'asseoir sur les lois françaises. Cette multinationale continue à faire figurer massivement des annonces illégales. Nous avons demandé depuis maintenant plus de 2 ans à Airbnb de retirer ces annonces illégales. Ils rechignent à le faire. Ils gagnent de l'argent sur la location d'appartements qui ne devraient pas être loués dans la capitale. Et nous avons donc décidé d'en passer par la justice, faute d'avoir réussi à l'issue de nos démarches à l'amiable.
De son côté, Airbnb se défend en affirmant que 120 000 mails ont été envoyés à tous les propriétaires de logements pour leur expliquer les nouvelles règles pour la plateforme. Cette assignation en justice n'a pas lieu d'être. Une audience devrait tout de même se tenir le 21 mai prochain devant le tribunal de Paris.
Merci Marguerite Lefebvre.
Europe 1, 12h40.
Voilà une manifestation qui devrait faire parler. On vous emmène en Espagne, à Madrid, où se tient en ce moment un très grand rassemblement contre le chef du gouvernement, le socialiste Pedro Sanchez. Henri de la Guérie, vous êtes notre envoyé spécial. Et ce qui risque de faire du bruit, c'est la présence, au milieu de la droite et de l'extrême droite, d'un certain Manuel Valls.
Oui, d'ailleurs, l'ancien Premier ministre a hésité à venir. Cette manifestation qui va des libéraux jusqu'à l'extrême droite réunit des milliers de personnes en ce moment à Plaza Colón, dans le centre de Madrid. Drapeaux espagnols à la main, les manifestants réclament des élections. Sanchez va-t-en, les indépendantistes en prison. Peut-on lire sur une pancarte la tentative de dialogue entre le gouvernement et les séparatistes a réveillé la colère des électeurs de droite, mais aussi celle de Manuel Valls.
Moi, je suis candidat pour une Barcelone catalane, parce que c'est son identité, espagnole, parce que ça a toujours été ainsi, et profondément européenne. Et pour cela, il faut être là, pour défendre la Constitution, l'unité de l'Espagne, et écouter aussi le cœur battant de toute l'Espagne, qui ne comprend pas aujourd'hui ce qui se passe entre le gouvernement de Madrid et les séparatistes catalans.
Le gouvernement Sanchez était prêt à nommer un médiateur pour tenter de résoudre la crise catalane. Voilà ce qui a mis le feu aux poudres, alors que le procès des dirigeants indépendantistes commence ici, à Madrid, dans 48 heures.
Merci Henri de Laguérie, en ligne de Madrid pour Europe 1. Un rappel des chiffres de la mobilisation des Gilets jaunes hier. 51 000 personnes ont manifesté en France pour l'acte 13. Nouveaux reculs de mobilisation et nouveaux incidents, notamment à Paris, où un homme a eu des doigts arrachés en voulant repousser une grenade de désencerclement. Avant d'en arriver au journal des sports, je voulais vous donner des nouvelles de Nénette. Si ce prénom ne vous dit rien, vous devriez faire sa connaissance. C'est une artiste spécialisée en peinture et qui a la particularité d'être un orang-outan, l'un des 10 plus vieux au monde, hébergé à la ménagerie du Jardin des Plantes à Paris. Pour Europe 1, c'est Laure d'Autriche qui va nous faire les présentations.
Confortablement installée sur des copeaux de bois, une mamie orang-outan, âgée de 50 ans, prénommée Nénette, s'empare de sa palette de peinture. Elle pose ses mains sur la toile blanche. Tout est très minutieux, explique Aude Bourgeois, vétérinaire à la ménagerie du Jardin des Plantes.
Elle utilise souvent des outils pour peindre. Donc ça va être soit un noyau, elle aime bien les noyaux de mangue. Ce qu'elle peint, ça ressemble à de l'art abstrait. Elle ne se contente pas de faire des tas et des pâtés dans un coin. Elle s'applique pour étaler les couleurs. Elle a peut-être une tendance pour le vert.
Le vert, la couleur principale de son environnement naturel. L'intérêt de voir ces grands singes faire de la peinture est aussi scientifique. En analysant la salive de Nénette, les experts mesurent son taux de cortisol, un indicateur du stress et de la concentration.
Quand il y a un stress, il y a un pic de cortisol qui montre vraiment un gros stress. Là, c'est vraiment une petite élévation qui montre que, en fait, il y a une attention accrue pour l'activité.
Et lorsqu'elle est de bonne humeur, une fois son œuvre terminée, Nénette enroule elle-même la toile et la donne aux soigneurs à travers le grillage.
Un reportage européen signé Laure d'Autriche. Et puis, c'est ce soir les victoires de la musique à l'américaine, c'est-à-dire les Grammy Awards. Rendez-vous à Los Angeles. Le hip-hop est favori, en tout cas en nombre de nominations, avec notamment Kendrick Lamar, Drake ou encore Cardi B. Allez, tout de suite, le rappeur du service des sports est entré dans ce studio.
Le journal des sports.
Le journal des sports. Vous avez raison de faire du rap quand on suit le football. Ils aiment beaucoup le rap, les footballeurs.
C'est vrai. Cyril de la Morinerie qui commence à parler avant même qu'on lui dise bonjour. Comment ça va?
Ça va bien, merci.
On commence justement par le foot. À deux jours du choc en Ligue des Champions, Manchester United, Paris Saint-Germain, les espoirs de voir Edinson Cavani disputer cette rencontre, les espoirs s'amenuisent.
Oui, après Neymar forfait, Edinson Cavani pourrait lui aussi manquer le choc à Manchester United. Donc mardi, l'attaquant uruguayen s'est blessé hier à la cuisse après avoir tiré un pénalty lors de la victoire parisienne contre Bordeaux. Et les premiers examens ne laissent rien augurer de bon, expliqué ce matin l'entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, dans l'émission Téléfoot sur TF1.
Pas de bonnes nouvelles pour Eddie cette matin parce que il a eu des examinations et il y a encore des examinations aujourd'hui. Et mon sentiment est que ça va être super difficile qu'Eddie peut jouer, mais on a toujours espoir, mais les premières examinations ne sont pas bien.
Ça va être difficile, on va suivre évidemment ce dossier sur Europe 1 et ce match que nous suivrons en intégralité lors d'une soirée spéciale mardi dès 20h avec Lionel Rousseau.
Alors on passe à la Ligue 1, la 24e journée. Hier soir, Amiens a battu Caen 1-0. Strasbourg s'est incliné contre Angers 2-1. Cet après-midi, c'est à Nantes qu'il y aura de l'émotion à 15h.
Le FC Nantes accueillera Nîmes et pensera à son ancien joueur Emiliano Sala, dont le corps sans vie a été retrouvé dans la carlingue d'un avion. Les Nantais joueront avec un maillot noir noir floqué Salah. Il y aura une minute d'applaudissement. Également observé dans tous les autres stades, Montpellier-Monaco, Toulouse-Reims dès 15h, Rennes-Saint-Etienne, Guingamp-Lille à partir de 17h. Et puis le grand match du dimanche soir à 21h sur Europe 1, c'est Nice qui recevra Lyon.
Cyril, la grande affiche aujourd'hui en sport, c'est en rugby. Le tournoi destination, l'Angleterre qui accueille la France.
Les Bleus vont tenter de rebondir après leur défaite face au Pays de Galles où ils ont dilapidé une avance de 16 points à la mi-temps. Mais les Anglais viennent de s'imposer en Irlande, tenant du titre. Autant dire que cela s'annonce très compliqué pour les Bleus, confirme notre consultant Eric Blanc.
Peut-être un conseil à Brunet, c'est d'appeler Bernadette Soubirous. Il faut prier peut-être pour le 15 de France. Après, lorsqu'on a très peur, on a vu des équipes françaises être capables de se resserrer. Ça peut peut-être apporter un supplément d'âme, mais il faudra autre chose quand même pour exister dans ce match, parce qu'il va falloir, je dirais, proposer du jeu, garder le ballon, avoir une conquête quand même convenable. Et tout ça, on verra à l'épreuve du feu si cette équipe de France, qui est en plein doute aujourd'hui, est capable de relever ce défi. De loin, on a quand même un peu peur de voir une équipe, non pas sombrer, mais quand même subir en Angleterre.
Le 15 de France avec Mathieu Bastaro, titulaire, qui affrontera à partir de 16h l'Angleterre, à suivre en fil rouge sur Europe 1 avec Simon Rubin.
Et puis il y a aussi un Angleterre-France féminin à 13h45. Là aussi, c'est le tournoi des Six Nations. Puisqu'on parle de sport féminin, ça nous amène au tennis. Les quarts de finale de la Fed Cup, c'est très bien parti pour les Françaises.
Les Bleus mènent 2-0 en Belgique. Retour réussi pour Caroline Garcia, absente de l'équipe de France depuis 2 ans, et succès émouvant pour Alizé Cornet, sa première victoire depuis 5 ans avec les Bleus, et sans doute l'une des plus belles.
Je suis sûre même que j'ai jamais joué à ce niveau en Fed Cup, et j'ai jamais aussi kiffé autant le moment. Voilà, après les galères que j'ai eues en Fed Cup et les matchs moyens que j'ai pu faire, là je me suis complètement exprimée, j'ai été conquérante, et c'est moi qui l'ai fait plier. C'est un truc, c'est des émotions qu'on peut pas atteindre sur le circuit. Voilà, normal quoi.
Alizé Cornet avec Corinne Boulou. On suivra dès 13h30 le troisième simple. Une victoire de Caroline Garcia face à la Belge Mertens. Et les Bleus seront qualifiés pour les demi-finales. Pour terminer cet après-midi, toujours en tennis à Montpellier. En finale, Joe Wilfried Tsonga affrontera Pierre-Hugues Herbert qui tentera donc de remporter son premier titre en simple.
Merci beaucoup. C'était le journal des sports signé Cyril de la Morinerie. On refait un point sur la météo.
Augmentez votre confort thermique et acoustique pour longtemps avec les fenêtres ArcaDB. Plus d'infos sur arcadb.com. ArcaDB vous présente la météo.
Valérie Darmon, vous étiez avec nous tout à l'heure pour nous parler de ces 21 départements en vigilance orange au vent violent. Je redonne rapidement les régions concernées. Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, Savoie, Haute-Savoie et le département de l'Ain. À part le vent, Valérie, qu'y a-t-il dans le ciel aujourd'hui?
C'est Mossa tout de même, moi évidemment ça souffle moins, mais on va retrouver notre perturbation des Pyrénées au Massif central jusque vers les frontières de l'Est. On a un temps de traîne actif qui va s'installer progressivement donc sur la façade ouest, avec toujours de fréquentes averses, parfois orageuses en Normandie, des rafales de vent toujours voisines de 90 km/h, et le retour d'assez belles éclaircies tout de même le long des côtes sud-bretonnes et vendéennes. Il faut un petit peu de lumière dans tout ça. Le ciel est couvert en Aquitaine, en Occitanie, sans trop de pluie. C'est nuageux sur le pourtour méditerranéen avec quelques ondées ici ou là. Les maximales, notre consolation du jour, elles restent douces pour la saison, comprises entre 8 et 13 degrés, entre 13 et 16 autour de la Méditerranée.
Vous voyez, c'est pas si mal quand vous voulez. Merci Valérie Darmon. Dans un instant, notre invité, le patron du salon du vin Wine Paris. On lui demandera d'ailleurs pourquoi avoir choisi un nom en anglais pour parler du vin français. A tout de suite.
Midi 30, 13h sur Europe 1. Le journal de la mi-journée, c'est avec François Geffrier. 12h49, le journal de la mi-journée se poursuit avec vous, François Geffrier, et votre invité.
Et notre invité, si vous êtes en train de préparer le repas, ça va vous intéresser. Bonjour Fabrice Rieux.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes le coprésident de Wine Paris, un nom bien français, si je puis dire, pour désigner ce salon du vin. Vous étiez obligé de l'appeler comme ça?
Ben oui, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, la France est un grand pays de vin, mais on a besoin surtout d'exporter nos vins. Et si on veut parler à une clientèle internationale, et Wine Paris se veut devenir le grand salon des vins internationaux, eh bien, il faut un nom anglais pour être de suite compris par nos amis chinois ou nos amis américains.
Ça veut dire que là, ce qui s'ouvre demain à Paris, c'est un salon professionnel. On aura derrière les stands des Français qui seront là pour présenter leurs vins, et devant les stands des visiteurs étrangers.
Exactement. Il y a presque 35% de visiteurs internationaux attendus. Et notamment, dans le top 5, on peut citer la Belgique, l'Allemagne, le Royaume-Uni, malgré le Brexit, et les Américains, les Pays-Bas. Les Américains aussi, ça nous fait plaisir, parce que c'est pas évident aujourd'hui de faire venir cette clientèle. Et les États-Unis, c'est un pays qui se développe énormément au niveau du marché et qui nous intéresse beaucoup.
Je note que vous avez dit le top 5, donc vous restez sur la langue de Shakespeare. Ce salon, il sert à quoi? Il sert à vendre des stocks importants, du vin en gros?
Bien, en fait, ce salon, il sert pas simplement à vendre des stocks importants de vins. C'est qu'aujourd'hui, la France est le pays qui a la plus grande diversité de vins au monde. C'est un pays avec une histoire très riche, très forte, pluriséculaire. Et finalement, en France, on a aussi bien des vins produits en grande quantité. On pense notamment aux vignobles du Sud, et je pense par exemple à l'Occitanie. Mais il y a aussi des petits vignobles, il y a aussi des petites cuvées, il y a des terroirs qui font des petites merveilles. Et dans ce salon, on va avoir des professionnels qui vont découvrir à la fois des gros volumes ou des petites quantités.
Est-ce que c'est dans ce genre d'endroit qu'on négocie des bouteilles à 1000, 2000 euros, 5000 euros ?
Alors effectivement, il peut y avoir tout simplement des bouteilles à des petits prix, mais il peut y avoir des bouteilles à des prix assez exceptionnels. Et dans ce salon, bien, il y aura aussi des très grandes bouteilles parce que de très grands domaines font le déplacement pour exposer.
C'est des ventes aux enchères ? Ça se passe comment ?
Ah non, pas du tout. Là, on n'est pas du tout dans les ventes aux enchères. On est sur des produits avec beaucoup de rareté parce que finalement, c'est un peu la loi de l'offre et de la demande. Quand vous avez un domaine où il y a à peine 2 hectares de vignes, eh bien, il y a très peu de bouteilles produites. Et si c'est un vin véritablement d'exception, reconnu par les grands professionnels dégustateurs, eh bien, vous avez des acheteurs qui sont prêts à débourser beaucoup pour avoir ces bouteilles assez rares.
Et c'est donc les montants, ça donne quoi ?
Ah, on peut avoir des bouteilles de vin qui peuvent atteindre des prix assez importants. Alors bien sûr, on n'est pas au prix de la Romanée Conti. Hein, puisque...
Il y a combien de zéros, là, pour être un peu concret ? C'est 500 euros, c'est 1000 c'est...
Allez, on peut dire que oui, on peut avoir des bouteilles jusqu'à 1000, 2000, 5000 euros.
Bon, l'avantage, c'est qu'en ces prix-là, on est sûr de le consommer avec modération. Est-ce que le vin français est encore une référence au niveau mondial ? Fabrice Rieu, puisque c'est un salon professionnel que vous animez demain.
Oui, complètement. C'est tout l'intérêt d'ailleurs, finalement, d'avoir développé ce salon Wine Paris. Pourquoi le vin français est une référence ? Parce que, encore une fois, c'est plusieurs centaines d'années d'histoire. C'est le premier système au monde en indication géographique, en appellation d'origine protégée, donc une garantie de travail sur des terroirs déterminés, sur une qualité. Et ça se traduit par des chiffres à l'export. Hein. Pourquoi ? Parce que, au niveau du vin français, alors certes, en volume, il y a certains pays qui progressent beaucoup, l'Italie, l'Espagne, les États-Unis, la Chine aussi, mais...
Mais ils ne progressent pas qu'en volume. Fabrice Rieu, les vins italiens, les vins chiliens ou californiens, certains deviennent vraiment renommés.
Ils deviennent renommés, mais la France reste le premier pays du monde en valeur et de loin. Et il ne faut pas oublier aussi que...
Est-ce que ça, c'est pas un simple cocorico qu'on fait nous dans notre coin, mais qui n'engage que nous ?
Non, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de baisse quand même sur cette valeur globale. Et au contraire, il y a même une progression. Les vins français progressent de plus en plus. Aujourd'hui, la concurrence essentielle des vins français, elle vient plutôt sur les petits prix, toutes les entrées de gamme. Et finalement, on en vient de plus en plus à la spécialisation de nos terroirs et à mettre en avant nos régions d'origine. C'est toute la volonté de ce salon de, quelque part, être une passerelle aussi, peut-être, sur l'œnotourisme. On a envie de faire de la France, qui est la première destination touristique du monde, et bien aussi, peut-être, la première destination œnotouristique du monde, malgré la progression de nos amis aussi espagnols et italiens.
Visiter des domaines, etc.
Oui, parce qu'en allant visiter des domaines, on va rentrer un peu plus dans la culture, dans le terroir, dans l'échange, dans le partage avec les gens qui font le vin. Et on va découvrir aussi des paysages. Et ça, c'est un enjeu majeur et important dans les années à venir. C'est aussi une des vocations de ce salon Wine Paris.
Vous avez commencé à parler des IGP, des AOP, c'est des sigles, on s'y perd un petit peu. Est-ce qu'on ne gagnerait pas à simplifier tout ça, tous ces indicateurs de qualité ou d'origine ?
Alors, effectivement, la réglementation française souvent est montrée du doigt comme étant la plus complexe au monde. Et dans le vin, c'est vrai. Mais c'est aussi une
garantie. Mais elle protège ou elle complexifie ?
Elle protège quand même. Elle protège parce que derrière, il y a des cahiers des charges. Donc, il y a quand même une sécurité. À l'heure où on cherche de la sécurité alimentaire, bien sûr, on cherche de la sécurité alimentaire. Mais finalement, le vin, c'est un produit pas comme les autres, sur lequel il y a véritablement tout un travail. Il y a des cahiers des charges pour préserver l'essence même de ce produit-là. Mais finalement, il y a aussi, peut-être, si on allait vers un peu trop de simplicité, on risquerait de perdre des spécificités. C'est ça qu'on ne veut pas perdre dans le vin.
Fabrice Rieu, vous êtes le coprésident de Wine Paris, ce salon qui ouvre demain. C'est un alcool comme les autres ou pas le vin ? Vous avez dit un produit comme les autres. C'est un peu le débat du moment entre le ministre de l'Agriculture et sa collègue de la Santé.
Écoutez, moi je souscris totalement aux paroles de Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture. Bien sûr que le vin n'est pas un alcool comme les autres. Pourquoi ? Parce que son histoire, qui a quand même plusieurs millénaires, hein, 8000 ans la Mésopotamie, 2500 ans pour les vignobles que l'on a en France. Cette histoire-là, ce patrimoine-là, lorsqu'on est éduqué par rapport au goût, on ne consomme pas les choses de la même manière.
On pourrait dire ça de chaque alcool.
Non, parce que dans l'histoire du vin aujourd'hui, on est intimement relié à la sociologie, à l'histoire, à la géographie, à ses origines géographiques, à ses régions, à ses terroirs. Et finalement, quand on déguste un vin, ben on a envie d'en savoir plus où c'est produit, comment c'est fait, par qui c'est fait. Et on va parler de tout cet univers-là.
Il y a un enjeu quand même, malgré tout, de banalisation du vin. Quand on dit que ce n'est pas un alcool comme les autres, c'est comme si on disait « c'est pas grave d'en boire ».
Ben, je pense qu'aujourd'hui, le problème majeur qu'on pourrait citer sur la consommation d'alcool, plutôt, on regarde les jeunes, est-ce que le vin leur parle complètement ? Je pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plutôt les effets de l'alcool qui sont recherchés. Et dans le vin, c'est pas les effets que l'on recherche, c'est véritablement plutôt cette qualité, cette spécificité culturelle. Et c'est le fait que finalement, quand on a découvert quelque chose dans un vin, on a envie de partager avec les autres. Et je pense aujourd'hui, finalement, que c'est un lien social.
En tout cas, on le redit, il faut consommer avec modération, c'est sûr. Merci beaucoup Fabrice Rieu. Je rappelle que vous êtes le coprésident de Wine Paris. C'est ce salon du vin qui ouvre aux professionnels demain, porte de Versailles à Paris.
Il est 12h56, François Geffrier.
C'est dans 4 minutes, à 13h pile, que s'ouvrent les carnets du monde, votre émission de grand reportage avec les correspondants d'Europe 1 aux quatre coins de la planète. Et c'est avec vous Sophie Larmoyer. Bonjour Sophie.
Bonjour François, bonjour à tous. On va à Caracas dès le début des carnets pour entendre les jeunes vénézuéliens, ceux qui ne sont pas encore partis. Ils manifestent, espèrent du changement et comme tout le monde là-bas, ils doivent aussi résister à la faim. La malnutrition fait des dégâts chez les tout-petits, tout spécialement. On évoquera aussi le procès historique qui commence dans 2 jours à Madrid. 12 indépendantistes catalans jugés pour rébellion. L'Espagne ne parle que de ça. 650 journalistes accrédités. Et puis on vous réserve quelques jolis reportages autour des roses de la Saint-Valentin et de quelques traditions bizarres du 14 février.
A tout de suite, Sophie Larmoyer, les carnets du monde, 13h-14h sur Europe 1. Ce sera juste après le rappel des titres de l'info.